Chapitre 56.
Omelette pour tous ?
Personne ne répond à Nectaire. Personne n'a d'appétit. Personne n'a d'ailleurs pensé à manger. Même s'il est 1 heure de l'après-midi et qu'ils resteront encore coincés à la souille pendant de longues heures.
Je commence à casser des œufs, enchaîne Nectaire. En prendra qui veut ?
Il se déplace entre la gazinière et le four allumé, espérant sans doute que la chaleur sèche ses vêtements trempés. Il a abandonné à l'entrée de la souille les crampons d'acier qui crissaient sur le pavé.
« Bien, » fait l'espinasse. « On va se poser 5 minutes et faire un point. Jennifer, tu ne quittes pas Maddy Libéry des yeux, même s'il y a peu de chances qu'elle ait envie de s'échapper. »
Le lieutenant invite Savine Laroche et Fabrice Salomon à s'asseoir autour de la table de la cuisine. Les voir piétiner comme des pigeons devant une boulangerie finit par lui donner le tournis.
« Fab, t'es allé voir Amandine Fontaine ?»«
Ouais, »
répond le géant.
« Ça va. État stationnaire, elle se repose. D'après moi, on lui a injecté de l'oxycodone. Et difficile de savoir combien. Si c'était une seringue entière, elle serait déjà morte. Si c'est seulement quelques milligrammes, elle s'en remettra. » Par ce temps, pas la peine de prendre le risque d'appeler les urgences. Elle sera mieux ici au chaud. Et puis maintenant...
Salomon hésite un instant, puis esquisse un sourire.
On a récupéré un médecin.
Excellent, Fab,
commente l'espinasse.
T'aurais même pu ajouter qu'elle connaît sûrement le dosage exact d'opioïdes dans le sang d'Amandine Fontaine, vu qu'il y a toutes les chances que ce soit elle qui lui ait injecté.
Un bref silence s'installe. Seulement fissuré par un bruit d'œuf cassé. L'espinasse tourne vers Nectaire un regard fatigué.
Je propose qu'on arrête de la jouer chacun solo et qu'on mette en commun tout ce qu'on sait. Une vraie coopération, le temps d'y voir plus clair. T'es d'accord, Nectaire ?
Le secrétaire de mairie, yeux baissés et poils en l'air, secoue la tête pour signifier que oui.
Parfait,
se réjouit l'espinasse.
On réglera plus tard cette histoire d'enquête parallèle. Je vais faire patienter Lazarbal, ce flic basque qui veut t'étrangler. Et tu m'expliqueras aussi comment tu t'es retrouvé sur une barque au milieu du pavin. Mais pour l'instant, j'ai juste besoin qu'on fasse une pause et qu'on essaye ensemble d'avoir une idée à peu près cohérente sur ce qui s'est passé.
Savine Laroche apprécie. L'espinasse est un flic efficace, avec le sens des priorités. Il a pris le temps de brièvement les interroger. Et l'urgence est clairement de trier toutes les connaissances accumulées pour constituer un récit le plus complet possible.
« Je commence et vous m'arrêtez, » poursuit l'espinasse. « Tout débute il y a 10 ans, quand Maddy Libéry perd son fils. Une noyade dans l'Atlantique. Il s'agit peut-être d'un suicide, plus vraisemblablement d'une désobéissance, peut-être provoquée par la peur d'une abeille. Maddy Libéry culpabilise, ne s'en remet jamais, et se met à croire que son gosse, Esteban, s'est réincarné dans un gamin qui lui ressemble, Tom Fontaine. Elle va jusqu'à s'installer à Murol pour être plus près de lui. Le reste est plus hypothétique, mais on peut penser que son obsession vire à la folie, et qu'elle parvient à manipuler tout le monde, y compris le petit Tom, dont elle farcit la tête avec son délire de réincarnation.
Savine lève la main.
Objection !
L'espinasse interrompt son récit à la façon d'un juge qui laisse la parole à l'avocat de la défense.
« Manipuler tout le monde !»
concède Savine.
« Pourquoi pas ? Mais comment aurait-elle pu entrer en contact avec Tom Fontaine ? Elle ne l'a vu que 2 ou 3 fois, presque toujours devant des témoins. D'accord, elle l'espionnait. Il l'obsédait. Je pense même avoir été la première à le repérer. Mais de quels moyens disposait-elle pour, comme vous dites, lui farcir la tête ?
La poêle à frire grésille derrière eux. Rien qu'à l'odeur, chacun devine que Nectaire a vidé les restes de champignons et de ciboulettes d'Amandine.
Les moyens, ça ne manque pas, Savine. Si vous saviez le nombre de dingues qui circulent sur Internet et les saloperies qu'ils sont capables de faire entrer dans la tête des gamins. Et Maddy Libéry en est accro. Elle poste sa vie sur les réseaux sociaux, ou plus précisément la partie de sa vie qu'elle veut bien exposer. Bref. Je poursuis. On doit faire l'hypothèse qu'avec Tom Fontaine, Maddy Libéry prépare son coup depuis plusieurs mois. Peut-être des années. Sinon, comment expliquer la maquette du village englouti construite par Tom sous son lit? Elle fabrique elle-même les coïncidences pour que Tom ressemble à son fils. Même goût, même phobie. Elle va jusqu'à tuer ceux qui obtiennent des confidences de Tom. Martin Saint-Foin, Jonas Lemoine. Tous ceux qui peuvent déjouer son plan. Notons qu'elle n'a aucun alibi pour aucun des deux meurtres. Et qui peut mieux qu'un médecin prescrire de la digitaline ou en introduire dans un médicament anodin? Une heure avant le meurtre de Jonas Lemoine, des témoins ont repéré la mytho de Maddy Libéry garée devant l'embarcadère du lac Pavin. Était-elle déjà en repérage? Nectaire, poil à la main, siffle d'admiration devant cette information. On a vérifié son emploi du temps, précise l'Espinasse. Elle avait eu une vive altercation avec Jonas Lemoine un peu avant le meurtre. L'Espinasse a le tact de ne rien ajouter pour ne pas renvoyer Nectaire à son statut d'enquêteur amateur. Tout se joue le jour des 10 ans de Tom, poursuit le lieutenant. Aujourd'hui donc, le point névralgique de son obsession. Elle neutralise Amandine en lui injectant un opioïde. Les médecins nous diront si elle a voulu ou non la tuer. Elle est l'enfant qu'elle attend, puis enlève Tom que dans sa tête détraquée, elle n'appelle déjà plus qu'Esteban. Cette fois, c'est Fabrice Salomon qui lève la main. Précision. Ouais, Fab. Où comptait-elle aller avec ce gosse? C'était quoi son plan une fois le gosse enlevé? Et pourquoi toute cette mise en scène après et avant? L'Espinasse se laisse tomber en arrière sur sa chaise. Il renifle à pleine narine l'odeur d'herbe et de champignons. Ce crétin de vieux fonctionnaire est sans doute bien meilleur cuisinier que policier. Il a 3 meurtres sur les bras, dont celui d'un gamin, et Nectaire va parvenir à lui donner faim. « Est-ce que je sais ?» répond le lieutenant en montrant pour la première fois une pointe d'agacement. Un psy expliquerait sûrement qu'elle cherche à exorciser le passé, à remonter le temps si tu préfères, avant que son gosse se noie, à le sauver avant ses 10 ans. Pour ça, elle a besoin que les choses se reproduisent presque à l'identique. Objection ! Relance Savine sans lever la main cette fois. Selon votre théorie, le plan de Maddy Libéry était prémédité depuis longtemps. Elle aurait patiemment organisé cet enlèvement. Sauf qu'au contraire, elle n'a pas cessé de nous prévenir, moi et Nectaire. C'était même sa pire crainte, que Tom soit kidnappé aujourd'hui. L'Espinasse sniffe une nouvelle pleine bouffée d'omelette. Ça vaut toutes les vaporettes. Eh bien, soit elle est vraiment démoniaque, et s'est gentiment servie de votre naïveté, Savine tique, merci pour la naïveté, soit elle est vraiment dingue et ne se souvient pas de ses actes. Je ne vous fais pas un dessin. Le genre de syndrome dont sont remplis les romans policiers et les séries télé. Troubles de la personnalité, schizophrénie, une partie de son cerveau ignore ce que la seconde moitié fait. Vous voyez, c'est pas moi, c'est l'autre. Nectaire lève un instant les yeux de la poêle. « Et tout ce délire ce matin ?» s'interroge le secrétaire de mairie. « L'escapade embarque sur le lac. L'escalade. » L'Espinasse reprend un semblant d'assurance. Visiblement, il a bossé sur ce point. On peut imaginer beaucoup de choses, mais à mon avis, Maddy Libéry voulait faire croire que Tom s'était noyé dans le Pavin. Elle a ramé jusqu'au centre du lac pour y abandonner un indice, un bonnet, une écharpe ou un gant de Tom. Elle savait que, compte tenu de la géologie du Pavin, il serait très difficile d'y retrouver un corps englouti, et que le doute serait toujours permis. Tom serait donc considéré comme mort noyé, et elle le récupérerait pour l'élever sous une autre identité.
« Ça se tient !»
siffle Nectaire avec admiration tout en rajoutant une pincée de sel. « Elle considère qu'on lui a enlevé son enfant il y a 10 ans, alors elle récupère ce qu'on lui a volé. Mais !» enchaîne l'Espinasse, plus sensible au talent culinaire de Nectaire qu'à ses compliments. « Tout ne se passe pas comme prévu. Tu arrives au lac et tu la vois. Puis nous débarquons, lui coupant toute retraite. » Nous sommes trop loin pour l'apercevoir, mais elle n'a pas pu rater nos gyrophares. Elle n'a plus le temps d'exécuter sa mise en scène. Elle n'a plus qu'une seule solution, fuir avec Tom. Esteban dans son esprit. Par la seule issue possible, la paroi d'escalade. Une folie par cette météo, la suite tu la connais. Tom glisse et finit noyé à son tour. Comme son gosse il y a 10 ans. Elle voulait le sauver. Elle l'a tué.
L'espinasse marque un temps d'arrêt. Il semble presque attendre qu'une salve d'applaudissements salue sa brillante démonstration. Finalement, pense-t-il, il a eu raison avec son omelette, ce con de Beaucolon. La garde à vue permet d'être longue. Il devra jouer serré pour récupérer des aveux. Seul contre les deux Madilibéri, la médecin insoupçonnable et la psychopathe irresponsable. Sans oublier qu'il est revenu trempé, épuisé de la virée au lac Pavin. Une lassitude supplémentaire l'envahit soudain. Savine Laroche vient de lever la main.
« C'est un peu fort, non ?»
intervient l'assistante sociale sans attendre qu'il lui donne la parole.
« Convaincre Tom de la suivre en pleine nuit, puis de monter avec elle dans la barque, pendant la pire tempête de neige de ces 3 dernières années, et pour couronner le tout, d'escalader à main nue une paroi de 20 mètres de haut ?»
Nectaire baisse le gaz sous la poêle et contemple une brève seconde son œuvre d'art. « Enfin, Savine, réplique-t-il. Tu as vu le village englouti que Tom a construit sous son lit? Le même délire que celui que son gamin racontait à son psy? Rien que cette maquette prouve qu'elle lui a complètement retourné la tête. » Savine foudroie Nectaire du regard, supportant difficilement que le secrétaire de mairie lui donne des leçons.
« Toi et ton putain d'instinct, Beaucolon. »
On va tout vérifier, précise l'espinasse pour calmer le jeu. Les ordinateurs, les téléphones portables, le courrier. On va interroger l'instituteur de Tom, les nounous, les animateurs du centre de loisirs, le maître nageur de la piscine des Hermines. Je vous le jure, Savine, on va trouver.
Désolé, insiste l'assistante sociale, mais je n'y crois toujours pas. J'ai parlé avec elle. J'ai dîné avec elle. Et je connais bien Tom. C'était un gosse rêveur, un peu tête en l'air, mais intelligent, joueur. Pas du tout le genre à se laisser manipuler. Comment peut-on une seule seconde imaginer...
L'espinasse la coupe, cette fois clairement agacée.
Et vous croyez que les parents de gamins radicalisés auraient pu un jour l'imaginer? Dans quel monde vous vivez? Des types en Syrie ou en Afghanistan arrivent à convaincre des gosses de 10 ans de se faire sauter avec une ceinture d'explosifs ou de tuer leurs frères et leurs parents? C'est pas à vous que je vais l'apprendre, Savine. Le cerveau d'un enfant, c'est de la pâte à modeler.
Et celui de Madilibéri, intervient Nectaire.
Une sacrée bouillie. Si Beaucolon peut vous donner un conseil. Autre qu'un 5% serait parfait pour accompagner mon omelette. Ce serait d'appeler directement son psy. Vous avez son numéro ?
Explose l'espinasse. Nectaire Paturin ne se donne pas la peine de répondre. Il se contente de sortir son téléphone de sa poche et d'appuyer sur le numéro qu'il a déjà essayé d'appeler une bonne dizaine de fois.
« Travail d'équipe !» commande-t-il, alors que les sonneries se succèdent.
« Docteur Wayan Balik Kuning, Centre de psychopathologie clinique du CHU du Havre. » Une dernière sonnerie, puis plus rien. Pas même de boîte vocale ou de répondeur. Pourquoi ce psychiatre ne répond-il jamais, malgré tous les messages que Nectaire lui a laissés? La brigadière Louchadière s'est approchée de la cuisine par l'odeur alléchée.
« C'est ton tour de garde, Fab. »
Salomon s'apprête à déplier ses 2 mètres, à regret. L'espinasse à sortir quelques assiettes quand le téléphone de Nectaire, qu'il n'a pas encore eu le temps de ranger, se met à sonner. Est-ce le docteur Wayan Balik Kuning qui rappelle? Tous retiennent leur souffle. Nectaire enclenche immédiatement le haut-parleur.
« Allô, Nikki? Nikki, c'est Aster, ta sœur chérie. T'es toujours avec la Sainte Inquisition? Les brûleurs de sorcières? »
« Oui. Ils écoutent. »
« Tant mieux. Vous êtes tous là. Alors les 3 mousquetaires, Salomon, l'espinasse et Louchadière, vous m'entendez? J'ai repensé à votre histoire de couteau volé à la Galipote, celui retrouvé dans le ventre de ce malheureux Jonas, le surfeur. J'ai repassé dans ma tête tout le fil de la journée. Des clients, je n'en ai tout de même pas des centaines. Et je n'en vois qu'un qui ait pu me le barboter.
À y repenser, il avait une attitude plutôt bizarre. Il m'a demandé d'aller chercher des tas de pierres rares dans la réserve, des gypses, des améthystes, puis s'est contenté au final de m'acheter une babiole.
Tu connais son nom ?
Son nom ? Non, mais son prénom, oui. Je l'ai vu qu'une fois au cimetière, au bras de Maddy Libéry. Et tu m'as un peu parlé de lui. C'est Gabriel.
L'espinasse a posé les assiettes. La pile carillonne une première fois sur la table, puis une seconde fois quand il tape du poing.
C'est qui ce Gabriel ?
Savine et Nectar sont stupéfaits. Est-il possible que l'espinasse et ses hommes aient été persuadés que Maddy vivait seul ? Mais après tout, qui aurait pu leur en parler ? Il n'avait aucune raison de s'intéresser à la vie privée du docteur Libéry avant ce matin. L'espinasse, faute de réponse, se rapproche de Nectar.
Et il se trouve où, ce fameux Gabriel ?
Et chez lui, sûrement, intervient Savine. Enfin, chez Maddy et lui, au moulin de Chaudefour.
Par ce temps, croit utile d'ajouter Nectar, il y a peu de chances qu'il soit sorti cueillir des champignons. Comme pour ponctuer sa phrase, une odeur de mousseron, d'herbe et d'œufs envahit aussitôt la cuisine. Une odeur d'omelette brûlée, accompagnée d'une soudaine et épaisse fumée. Nectar se précipite sur la poêle qu'il a, une seule petite minute, mais une minute de trop, oublié de surveiller. Louchadière tous. Salomon grimace, mais l'espinasse s'en moque. Il écarte le brouillard noir d'un revers de main et fixe l'intense brume blanche derrière la fenêtre. La tempête de neige est à son apogée.
« Salomon, »
dit-il en se tournant vers son adjoint, « t'as bien fait la Napurna, la Dent Blanche et la Concagua ?» Le colosse en uniforme ne peut que confirmer.
« Il y a moins de 3 kilomètres entre Froidefond et le moulin de Chaudefour. Encore moins en coupant direct à pied par la forêt. Tu montes au moulin de Chaudefour et tu vas me rendre une petite visite à ce Gabriel. »